Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 25 janvier 96.
rationnelle. En scolastique, c'est ce qu'on dit. La psychologie rationnelle, oui. Ça, c'est vraiment complètement à côté. Parce que la psychologie rationnelle, mais c'est très curieux que ça reste. Les psychologues veulent trouver une espèce de statut scientifique de la psychologie. C'est les vieux restants scolastiques de la psychologie rationnelle. Mais c'est évident que pour nous, à la différence d'Aristote, Aristote, lui, était en face de Platon et devait montrer le caractère très particulier de cette philosophie du vivant. Regardez l'introduction d'Aristote à au traité de l'âme, du Peripsychès. Aristote montre bien l'importance et l'intérêt de cette science. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que lui. Montrer que la philosophie du vivant ne fait plus partie de la philosophie de la nature, qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau et d'irréductible. Et c'est au fond là où c'est très difficile de bien saisir le caractère nouveau de cette partie de la philosophie. philosophie. Si toute la philosophie commence par l'expérience, il faut voir que de fait, l'homme a deux types d'expériences. L'expérience interne et l'expérience externe. C'est-à-dire alliance de l'intelligence avec les sensations qui aboutissent au toucher, qui impliquent la vue, qui impliquent l'ouïe, et des expériences internes de mes opérations vitales, l'immanence du vivant. Cela, je peux tout de suite le savoir. Je crois que dans toute partie de la philosophie, il y a toujours ces deux types d'expériences. Mais il y a un ordre. Si tu restes très intéressant à ce point de vue-là, de faire cette petite enquête, chez Platon, l'expérience externe des sensations, de l'intelligence liée aux sensations, est uniquement quelque chose qui me réveille. Mais les sensations n'apportent rien à ma recherche de la vérité. Au moins le premier Platon, c'est la réminiscence seule. On pourrait dire, et ce serait une recherche très intéressante à faire, on pourrait dire que, de fait, Platon, progressivement, réintègre la sensation dans sa philosophie. Mais pas pleinement. Aristote, lui, intègre pleinement l'expérience comme le point de départ de la connaissance philosophique. Alors, c'est là où l'équilibre entre expérience externe et expérience interne est différent dans les diverses parties de la philosophie. Ce serait une première étude à faire, ça. Simple. Pour la connaissance de la matière, pour la connaissance de la nature non vivante, l'expérience externe est principale. Pour l'expérience du vivant, l'expérience interne est capitale. Elle reste toujours à l'autre expérience, mais elle a quelque chose d'unique pour me faire comprendre que la philosophie du vivant n'est pas la philosophie de la nature. Et que la philosophie du vivant demeure une connaissance spéculative, mais qui a un caractère très particulier, puisque je m'appuie constamment sur mon expérience interne. Mes sensations, mes passions. Et ma connaissance intellectuelle. L'amour. Mais je crois que c'est ça qui va caractériser la philosophie du vivant. C'est que l'expérience interne joue un rôle primordial. Parce que la vie est immanente. C'est tout de suite mesurer la quantité pour mieux la connaître. Et il faut que je la mesure pour mieux la connaître. Par là, je la tue. Tandis que lorsqu'il s'agit de connaître des opérations vitales, je ne peux plus les mesurer. Je suis donc en face d'une connaissance où la subjectivité joue un rôle très important. Mais cette subjectivité peut rester objective. Autrement dit, il y a une vraie philosophie du vivant. Il n'y a pas qu'une description. Je crois qu'en psychologie, il y a une description et la recherche de certaines lois. Mais il n'y a pas d'objectivité philosophique. Ça, c'est un très gros problème, très intéressant, parce que très moderne. Ça fait partie de cette question de la diversité des sciences modernes et de la philosophie. Et c'est un cas très unique, la psychologie et la philosophie du vivant. Il faudrait, voyez, si on avait le temps, il faudrait qu'à chaque moment de la philosophie du vivant, on voit en parallèle ce que la science biologique dit et ce que la psychologie dit. Alors vous verriez que la psychologie reste une science abstraite au très grand sens et que la philosophie du vivant est beaucoup plus concrète, réaliste que la psychologie. La science biologique est abstraite elle aussi parce que tout ce que la science biologique dit, elle le dit grâce aux instruments, aux microscopes dont elle se sert. Quand vous faites une prise de sang et que vous analysez le sang, vous ne pouvez pas analyser le sang vivant. Vous devez essayer d'analyser le plus vite possible pour que les qualités du sang vivant, qui est un sang qui ne fait plus, qui est séparé du vivant, restent encore vivant alors qu'il n'est plus. Donc il y a un mensonge perpétuel. C'est la vie, qui change tout. Et constamment, c'est comme ça. Il faut tuer le vivant pour l'analyser. Et c'est vrai que le propre de la philosophie du vivant, c'est d'essayer de saisir le jaillissement de l'acte vital. Je parle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette alliance du sensible et de l'intelligible. Quand je parle à quelqu'un et les mots que je dis ont une signification, normalement, qui se réfère à quelque chose de réel. Et en parlant, je vous conduis à ce quelque chose de réel dont j'ai l'expérience. Je vous dis, vous pouvez vous en avoir l'expérience. Alors voyez, c'est là où je retrouve l'objectivité. Je saisis subjectivement quelque chose d'objectif que je peux transmettre. Ma subjectivité, je ne la transmets pas. Vous pouvez la recevoir et être ému de cette subjectivité. Puisque c'est quand la subjectivité est très forte, on émeut les gens. C'est sûr. Quelqu'un ne sait plus parler, ne fait que crier. C'est très émouvant. Mais vous cherchez à comprendre et vous ne comprenez pas. Parce que la subjectivité pure ne se transmet pas. Elle est unique. Et dans la philosophie du vivant, on fait constamment cette expérience. On part de la subjectivité pour retrouver l'objectivité. philosophe, quand il parle de l'âme, ou quand il parle de sa propre vie, une philosophie du vivant, il est celui qui ne se sert pas d'instrument. Je ne fais pas la philosophie du vivant dans un laboratoire, avec des instruments qui me permettraient de connaître certaines choses particulières. Je ne rejette pas ce que dit la science biologique, ça m'intéresse. Ça ne me donne aucun principe. Aucun. Ça me donne des lois du comment, du vivant. Mais ce qu'est le vivant, impossible. Seul le philosophe peut essayer de comprendre ce qu'est le vivant. Et il sait très bien qu'il n'y a pas de définition du vivant. On peut décrire, on peut saisir les principes du vivant, les principes propres du vivant. Et je ne peux pas définir le vivant. C'est au-delà de toute définition, par genre et différence spécifique. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un problème nouveau, irréductible, par rapport à la philosophie de la nature, par rapport aux sciences modernes. Difficile à préciser, mais qu'il faut essayer de préciser au plan critique pour voir où elle se situe exactement. Vous voyez, ramener comme Aristote la philosophie du vivant à la philosophie de la nature et de la matière, je crois que nous ne pouvons plus faire ça. Opération vitale, mais attitude réflexive qui n'est pas la réflexion critique ni la réflexion logique. C'est la prise de conscience de mes actes que je pose de moi-même. C'est la prise de conscience de mes diverses opérations vitales. Je peux les saisir en témoin. Je peux les saisir comme mes opérations. Et ce n'est que quand je les saisis comme mes opérations que je saisis le caractère propre de ces opérations vitales. Donc vous voyez, il y a là quelque chose de très spécial à la philosophie du vivant. Et ça, il faut le comprendre dès le point de départ. Du vivant qui est l'homme. faire que ces traditions religieuses qui sont des mythes, qui sont indissolablement symboliques, je puisse montrer ce qu'il y a de vrai dans ces traditions religieuses. En saisissant ce qu'est l'âme inductivement. Donc, le premier chapitre, après la petite introduction, le premier chapitre d'une philosophie du vivant, c'est quel est le principe propre de la philosophie du vivant. La découverte de l'âme. Vous voyez, l'âme est à la philosophie du vivant ce qu'est la nature à la philosophie de la matière. La philosophie de la matière regarde ce qui est mu. La philosophie du vivant regarde ce qui se meut. C'est la seule différence, c'est le se meut. Le vivant a des initiatives. Il est source d'opérations vitales qui viennent de lui et qui sont immanentes, qui peuvent être immanentes, que personne ne peut très bien ne pas voir. C'est le propre du vivant. Et donc, ce sera le premier point sur lequel, de fait, on va essayer de découvrir. Après, on verra comment vivant homme à différents niveaux de la vie, les trois niveaux de vie humaine ou de vie de l'homme. Et c'est toute la partie, les parties de la philosophie du vivant. Voir leur diversité, voir leur unité. Et tout ça est commandé par la saisie de l'âme. Donc c'est relativement simple la philosophie du vivant. Mais étant donné que l'homme est un être vivant extrêmement complexe, c'est le plus complexe de tous les animaux, et c'est le plus exigeant d'unité. L'unité de la vie humaine, de la vie de l'homme, est plus forte et plus profonde que celle de la vie d'animal. Le plus évolué, le plus doué, le plus parfait. Et c'est justement cela qui permet de dire qu'il y a une philosophie du vivant qui regarde l'homme et qui a quelque chose de sui generis. Parce que s'il n'y avait pas l'aspect spirituel, il n'y aurait pas de connaissance scientifique. Pas de recherche de vérité. C'est donc ce qui va permettre dans la philosophie du vivant de comprendre comment certains aspects de la vie de l'homme ne peuvent se comprendre que dans cette attitude réflexive. Alors, nous allons tout de suite essayer d'entrer dans cette philosophie du vivant, première partie, la connaissance de l'âme. Alors, avant, un petit nota bene. Je me souviens quand j'enseignais la philosophie du vivant au Saulchoir, une objection tout de suite d'un étudiant. Ce que vous pouvez faire, notez toutes vos questions. Vous écoutez, et puis vous avez à côté une feuille sur laquelle vous mettez vos questions, parce qu'il y a... Il faut coopérer le plus qu'on peut. Et dans la philosophie du vivant, c'est l'avantage, c'est qu'on peut coopérer énormément. Parce qu'on a tous notre laboratoire, c'est tout. Vous l'emportez toujours avec vous. Même avec le TGV, vous avez le laboratoire. C'est vrai, c'est une expérience nouvelle, le TGV. L'avion. On va pas faire la philosophie de l'avion. Tu vivras dans l'avion. C'est un instrument extraordinaire. Mais c'est un instrument. nouvelle vision du mouvement local. Et je vois l'objection de cet étudiant, c'était mon père devrait peut-être commencer la philosophie du vivant en montrant à quel moment commence la vie. Vous voyez, aspect génétique. On voit la philosophie de la nature. Ne faudrait-il pas voir tout de suite la différence entre l'être physique et l'être vivant? Alors, vous répondez qu'on est en philosophie, et que je ne suis pas en psychologie où je cherche l'aspect génétique en premier lieu, parce que cet aspect génétique, je ne le connais pas.
Le vivant a ceci de tout à fait particulier, c'est
qu'il cherche ardemment son bien partout. Il assimile de façon extraordinaire tout ce qu'il peut et il rejette tout ce qui n'est pas assimilable. Et donc, il faut découvrir ce qu'est ce vivant qui assimile et qui rejette ce qui n'est pas assimilable. Il a un pouvoir de discernement au niveau instinctif quand il s'agit de la vie végétative. Et quand on est trop cultivé, on a perdu cet instinct. Les gens de la ville, très cultivés, les bons parisiens, ou si vous voulez, ceux de Versailles, n'arrive plus quelquefois à discerner ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais parce qu'ils s'arrêtent au goût. Ce qui les intéresse, c'est l'aspect artistique du repas, de la nourriture. Avant tout, tandis que l'état sauvage cherche ce qui est bon au point de vue de l'individu pour sa vie. C'est très curieux ce détournement. C'est un détournement. Quand vous mangez, la première chose ce n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est savoir si ça vous est utile. Alors il y a une erreur fondamentale, un déséquilibre radical qui existe. On est dans ce déséquilibre, puisque c'est ça qu'on appelle la civilisation. Radicalement, c'est ça. Mais vous ne broutez plus comme l'hippopotame. Non. De temps en temps, on vous sert de la salade, mais elle est très évoluée, cette salade. Et à partir de là, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'homme ?